Madame Otoko, certains journaux de la place ont relevé le fait que qu'il n'y a pas eu d'évolution dans le discours du Rwanda, et il souligne le fait que dans sa déclaration faite à Kinshasa, la ministre rwandaise des Affaires étrangères s'est limitée à dénoncer la menace que représente le FLR, sans pour autant évoquer le M23.
Quand on est ami, on peut pas dénoncer un ami à tout moment et à tous les lieux. Regardez ce qui va se passer. La République démocratique du Congo a saisi le Conseil de sécurité contre le Rwanda. Mais qui sont qui gèrent le Conseil de sécurité? Ce ne sont pas les grandes puissances, entre autres les États-Unis et aussi tous les alliés du Rwanda. Est-ce qu'ils vont faire passer ce message dans ce Conseil? C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on prenne des responsabilités en tant que responsable congolais gérant une entité qui s'appelle République démocratique du Congo. Je propose que, comme ce que Bimou a dit, pour être en paix, il faut qu'on s'organise d'une façon interne et aussi avoir une très bonne diplomatie avec tous les pays qui nous entourent et aussi la communauté internationale. Mais tant que nous restons faibles, tant que notre armée n'est pas organisée, à tout moment, les autres vont toujours nous menacer. Ça, on doit le savoir et il faut mettre de l'argent, des moyens et aussi trop du sérieux dedans.
Madame Moussema, Alain Moutoko parle d'une bonne diplomatie comme une des solutions et organiser le FADC, l'armée congolaise. Mais on a souvent évoqué des lobbies dans cette question qui oppose le Rwanda et la RDC. Pensez-vous que le Congo, la République démocratique du Congo, aurait des lobbies à travers le monde qui comprennent sa position et qui la défendent?
Bon, les lobbies ne seraient pas une mauvaise chose, mais bon, je pense que les lobbies viennent appuyer déjà un gouvernement faible, un gouvernement fort avec aussi une armée forte et capable donc de sécuriser les frontières, étant donné que c'est là même la mission avec la jeune d'un gouvernement, la sécurité des personnes de l'ordre vient ce qui s'est tendu de la République. Mais quand on parle par exemple de condamner, condamner à mon avis, c'est pas un verbe d'action. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le flou. On ne comprend pas exactement ce que ça veut dire. Est-ce que, si c'était par exemple le Rwanda qui était attaqué, vous pensez que le Rwanda allait opter pour la voie de saisir les conseils de sécurité des Nations Unies? Je ne sais pas. On se pose aussi la question, quand par exemple ces éléments rwandais qui sont sur le sol, qui seraient sur le sol congolais, ont traversé la frontière, où était l'armée congolaise? C'est autant de questions qu'il faut se poser, mais à un niveau aussi la question des lobbies, la question de la diplomatie. Nous sommes en politique, on ne peut pas vraiment négliger cela. Je pense que le Congo doit aussi toujours faire beaucoup d'efforts dans ce sens-là de la diplomatie agissante, même au niveau international, même au niveau aussi interne. Mais ça ne peut pas déranger. Je pense que ça sera une bonne option aussi tout de même. Mais en attendant, il faut travailler et aussi avoir un lobby fort.
Mais donc, qu'est-ce que vous proposez pour une solution efficace et durable et adéquate face à ces problèmes qui déstabilisent l'Est du pays? Parce que vous estimez que la démarche qui a été menée auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est une démarche qui ne va aboutir à rien.
Effectivement,
vous proposez quoi?
Effectivement, il n'aboutira à rien.
Vous proposez quoi comme solution?
Je propose d'avoir un pouvoir fort à Kinshasa. On ne l'a pas, malheureusement. C'est de pouvoir s'organiser et avoir une armée forte et dissuasive. Il peut un moment, ce grand pays, régler tous les problèmes de tous les pays voisins. Vous n'étiez peut-être pas encore né, Guy Matin, mais quand il y avait un problème au Tchad, c'est l'armée zaïroise qui réglait le problème au Tchad. Quand il y avait un problème au Burundi, c'est l'armée congolaise qui réglait le problème au Burundi. Quand il y avait un problème en Centrafrique, c'est l'armée congolaise qui réglait le problème. Quand il y avait un problème au Rwanda, c'est l'armée congolaise qui réglait le problème au Rwanda. On était un pays fort, on était un pays respecté.
Maintenant, le contexte
a changé. On est un pays à genoux. La preuve, on va au Conseil de sécurité. Avoir une armée forte, avoir une véritable politique pour avoir une armée forte. Est-ce que les militaires sont payés? Parlons-en. On a vu les rations de militaires à Kisangani au marché. Qui a été puni? Personne. Il y a des militaires qui, des mutins de profession. Il fait une mutinerie aujourd'hui, il rentre demain, on ne le punit pas. Il fait une mutinerie et tout le monde ne fait que ça. J'apprends que hier, il y a eu d'autres mutins qui ont rejoint le mutin.
s'ils sont à Rounoni, ça, il faudrait combien de temps pour qu'on les déloge de Rounoni? Rounoni, c'est une petite localité qui est entre la frontière du Rwanda, la frontière du Burundi, la frontière de l'Ouganda et la frontière de la RDC. Ça fait, on est enlisé là depuis combien de temps?
Donc, il faut repenser le système de...
Absolument, absolument. Et là, on n'aura pas à pleurnicher, à se mettre à genoux, à larmoyer que non, au Conseil de sécurité, condamner tel. Et quand on aura condamné, les morts congolais vont ressusciter.
Merci, nous passons à notre deuxième thème ce soir. Environ 8 milliards de dollars américains, tel est le montant du projet de budget 2012 que le Premier ministre a présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Pour rappel, les députés nationaux sont en session extraordinaire depuis mercredi dernier jusqu'au 19 juillet, session consacrée essentiellement au budget pour l'exercice 2012. Selon le Premier ministre, ce projet ne tient pas compte des budgets des provinces. Écoutons cet extrait que nous a sélectionné Daniel Tamizoni.
Il s'agit en fait de six aspects. Premièrement, poursuivre et finaliser les réformes institutionnelles en vue de renforcer l'efficacité de l'État. Pour cette cible, nous avons 25,59% des ressources budgétaires qui y sont consacrées. Deuxièmement, il faudra consolider la stabilité macroéconomique et accélérer la croissance économique pour diminuer la pauvreté et accroître les emplois. 25,19% des ressources budgétaires qui sont consacrées. Troisièmement, il faudra poursuivre la construction et la modernisation des infrastructures de base. Et à ce point, nous avons 18,38% des ressources budgétaires qui sont consacrées. Quatrièmement, il faudra améliorer les cadres de vie et les conditions sociales de l'ensemble de la population. Un taux de 29,49% des ressources budgétaires y sont consacrées. Cinquièmement, nous avons l'obligation de renforcer le capital humain et l'éducation à la citoyenneté. Un peu moins d'1% des ressources budgétaires y sont consacrées. Et enfin, sixièmement, il faudra renforcer la diplomatie et la coopération au développement. Un peu moins d'1% des ressources budgétaires y sont consacrées.
Alain Boutoko, je rappelle que vous êtes reporter photographe indépendant. Un budget estimé à environ 8 milliards de dollars américains, votre analyse.
Et avant de répondre à cette question du matin, je voudrais d'abord dire que la première décision que le Premier ministre a prise là, de grande importance, annuler toutes les structures qui existent dans la primature et entre autres le CPRS. Et ça, on n'a pas parlé dans la presse, sauf la radio Capu qui a fait écho. Et en annulant cette structure, c'est-à-dire que lui n'a pas consulté la tripartite. Il est le gouvernement, il est dedans, mais il y a aussi des syndicalistes, mais aussi les entrepreneurs, les employeurs, la PEC et toute autre fédération de travailleurs. Alors, ça, il prend une décision pour annuler l'existence des structures qui donnent vie aux citoyens congolais. Et ces hommes et ces femmes ont été formés par le gouvernement congolais et leur expertise va tomber dans le comme ça. Pour être remplacé seulement par d'autres structures ou d'autres personnes qui sont de l'obédience ou de...
Il faut parler de l'impact de ces structures sur la vie sociale des Congolais. Est-ce qu'on peut mesurer l'impact de ces structures sur la vie des sociales des Congolais?
Mais je dis que ces structures sont nées par le besoin qu'a le BIT, le Bureau international de travail. Vous ne pouvez pas avoir un pays en paix s'il y a des grèves partout. Regardez ce qui s'est passé quand les transporteurs de taxis et de bus ou de taxis ont grévé. Toute la ville était paralysée. Et pour éviter de telles anomalies, il faut alors réunir tout le monde et chercher des solutions ensemble. C'est pourquoi on a créé une des structures. C'est la primature, le CPRS, le cadre permanent du dialogue social.
Voilà, revenons maintenant au budget qui est estimé à environ 8 milliards de dollars américains.
Oui, mais en fait, quand je vois ce budget à la première vue, ce budget sera appliqué à 2012 ou à 2013. C'est
pour
ça la grande
question. Pour l'exercice 2012.
L'exercice 2012. Mais nous sommes à quel mois aujourd'hui?
Au mois de juin.
Au mois de juin. Donc la moitié du mois est passée.
De l'année.
De l'année est passée. Il faut se poser des questions. Ce sont de prendre les choses à la légèreté pour gérer un pays. Il faut une politique et une politique réelle pour gérer le pays.
Bien entendu, c'est tout le monde qui dénonçait le fait que le gouvernement a évolué sans budget pendant un certain moment. Et maintenant que le gouvernement attaque à venir doter le pays d'un budget, pourquoi on a tendance à trouver ça anormal?
Je ne sais pas. Que l'on ne dise pas que le budget est arrivé en retard.
peut-être pour contenter, pour qu'on ne dise pas qu'on veut quelque chose de son côté. Est-ce que le budget est arrivé à temps, oui ou non? Non, il est arrivé en retard, je réponds. 8 milliards, ça représente quoi? Quand les pays voisins ont 40 milliards, 50 milliards. Le budget passé, on a évalué, il y a eu des dépassements à certains postes. Qu'est-ce qu'on en a fait? Les services mobilisateurs de recettes, on a fermé les robinets? Non!
Non, mais il faut préciser que le Premier ministre a dit que le budget, les 8 milliards, constituent les recettes internes seulement. Donc, il n'a pas inclus les budgets provinciaux ainsi que les recettes externes.
Tout à fait. Mais 8 milliards, ça représente quoi? Pas un pays comme l'Angola qui n'a pas notre superficie, qui n'a pas notre population. À 50 milliards de budget, ça doit faire réfléchir. Pourquoi on pense qu'un Congolais ne peut pas réfléchir? Et lui dire non, ouais, on a 8 milliards, on n'a pas pris en compte les budgets professionnels, on les prendra en compte quand? On a évalué ce qui a été fait l'année passée. Il y a eu des institutions qui ont fait des dépassements budgétaires. On a pris des sanctions? Non. Qu'est-ce qui a été fait pour remédier à la situation? Rien. Non, c'est vrai, 1 milliard. Vous avez entendu les pourcentages? L'armée, 2%. Et avec ça, vous pensez qu'on est à même de faire une guerre ou... Et de ces 2%-là, on va détourner je ne sais combien et on ne paiera rien. Parce que ce pays est un pays d'impunité, est un pays où l'impunité règne en maître, où le détournement est un fait héroïque. Et voilà, 8 milliards, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui au mois de juin? C'est vrai, on peut se contenter qu'on aura un budget, on va discuter jusqu'au mois de juillet, il arrivera. Entre-temps, les gens ne sont pas payés, ça ne met personne, hein, les cabinets ministériels peuvent fonctionner et tout le reste, comme si de rien n'était dans le meilleur du monde. Où allons-nous?
Merci. Donnant un enseignement, 6 cibles sont visées par ce budget. Il y a notamment l'amélioration des conditions sociales des populations, à laquelle l'on consacre 29,49%.
En fait, je pense que c'est quand même un pas de plus parce que ce soir-là, les sociales, le gauche, un pourcentage plus ou moins élevé. Même si le 9%, c'est très comme le disait le confrère, n'est pas aussi grand-chose, mais ce qui est important, ce n'est pas le chiffre en soi, le 9%, mais c'est plutôt les mécanismes d'application et des sujets par rapport à tout ce que les confrères ont mentionné, comme détournement, comme bonne gouvernance, et ainsi de suite. Je pense qu'il faudrait aussi qu'il y ait des indicateurs, en justice, par exemple, pour savoir que non, la vue du peuple congolais a changé, comme cette fois-là, les soutiens semblent avoir un peu une place du soir. Aussi, par rapport à la question de retard, le budget est venu avec retard, 6 mois après, je pense qu'on ne peut pas dédouaner aussi les autorités, d'autant plus qu'il y a une politique de continuité d'un gouvernement, et ça ne justifie en rien le retard dont il est question ici. Mais comme les soutiens, quand même, à une place du champ, je pense qu'on peut laisser le temps au temps et observer et voir comment ça va évoluer, mais on a besoin du changement, le social, de l'eau, l'électricité, je ne sais pas, le soin de santé, des choses vraiment élémentaires. Il faut qu'il y ait des mécanismes d'application et de suivi pour le peuple congolais.
Alain Moutoko, l'autre cible visée par ce budget, c'est le renforcement de l'efficacité de l'État auquel on consacre 25,59%. Il y a, c'est vrai, des défis à relever par rapport à cela, parce que beaucoup d'analystes attribuent les problèmes que connaît le pays à la faiblesse de l'État congolais. Et voilà que ce budget vient de consacrer 25,59% pour consolider l'État congolais.
Oui, mais pour consolider l'État congolais, il n'y a pas multiples chemins à prendre. L'unique chemin, c'est respecter la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, et aussi que la justice soit appliquée, que les lois du pays soient appliquées. Et ça, moi, je pense que ça ne demande pas tout le moyen du ciel. C'est un problème de volonté, un problème de détermination, un problème d'exemplarité aussi. Du coup, que le sommet donne l'exemple que la justice est pour tout le monde, la bonne gouvernance, c'est tout le monde qui devait l'appliquer, et là, tout le monde devait se retrouver.
Nous entendrons au sujet de ce projet de budget, le président du Sénat, Léon Kengo, a dénoncé les manques des recettes du pétrole et des mines. Comment expliquer le fait que les recettes de ces deux secteurs importants ne puissent pas figurer dans ce projet de budget?
Mauvaise gouvernance, tout simplement. Mais comment expliquer qu'on a, on a parlé, il y a des gens qui sont dans ce gouvernement qui ont promis il y a 4 ans qu'enfin on verrait quelque chose dans le budget de l'État qui va revenir du pétrole. On a parlé du pétrole du lac Albert. On a parlé du pétrole que l'Angola nous pompe au vu et au su de tout le monde sur le littoral de l'océan devant l'embouchure de l'océan Atlantique. Les mines. Les contrats léonais ont été dénoncés depuis le mandat passé. Quelles sont les retombées des contrats léonais ou de la révision des contrats léonais dans le budget ou même dans la vie des Congolais? Nul. Ce qu'on a récupéré, qu'est-ce qu'on en a fait? Si on a récupéré quelque chose, pourquoi on n'en parle pas? Mais dans le Katanga, le mining pousse comme des champignons. La route de Kasumbalesa emporte les minerais à l'extérieur du pays. Où va cet argent? Et il semble qu'il y a certains bons qui, eux, se retrouvent, le peuple congolais, basta, on s'en fout. La solution, c'est la bonne gouvernance. Est-ce qu'on a fermé les robinets des fraudes? Est-ce qu'on a fermé les robinets des détournements? Est-ce que c'est tout ça? Et quand on vous dit que 8 milliards, c'est dérisoire, c'est à peine le budget d'une grande ville, j'allais dire même des équipes de football dans des pays sérieux. Mais nous, on s'en contente, on ne ferme pas les robinets, on tracasse les gens pour avoir des taxes à gauche et à droite, alors que notre pétrole, si l'Angola a aujourd'hui 50 milliards de dollars de budget, c'est grâce à son pétrole. Pourquoi nous aussi on ne peut pas, grâce à notre pétrole qui est au lac Albert et le pétrole qui est partout à travers le pays, avoir un budget sérieux? Pourquoi les mines ne peuvent pas nous rapporter quelque chose? On a parlé des mines pour construire les routes, mais où va cet argent?
Merci. Dénoncement, parce qu'il y a une unanimité sur le fait que 8 milliards de dollars américains, ce n'est pas suffisant. Pensez-vous qu'il y a des sources de financement qui peuvent permettre à la RDC de poursuivre son budget et permettre à la RDC d'avoir un budget à la hauteur de ses ambitions?
C'est la question de tous les jours. On a toujours dit que la République démocratique du Congo, c'est un scandale géologique. Je pense que la chanson, elle est connue depuis des années. Elle regorge de beaucoup de forêts, elle regorge un climat approprié. Elle a les cours doux, elle a les rivières, elle a tout au fait. Donc, les richesses du sous-sol et du sol. Je pense que si on travaillait, si on touchait pour... je ne sais pas, travailler toutes ces ressources là-bas. On peut aussi avoir des sources de financement. Mais bon, je ne sais pas si c'est possible de les faire, mais je pense qu'il y a beaucoup de sites qui ne sont pas encore exploités et on peut les exploiter. Aujourd'hui, le Congo peut se retrouver à une bonne place si on pouvait exploiter toutes ces richesses qui sont enterrées, qui sont enfouies, qui ne sont pas exploitées, peut-être par faute de mauvaise gouvernance ou faute de vision politique, je ne sais pas moi, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut exploiter, beaucoup de voies de sortie. Donc, il revient encore une fois, comme on l'a dit, d'avoir un gouvernement à vision, un gouvernement responsable, qui puisse aussi avoir des valeurs citoyennes, républicaines, l'éthique, la probité morale. Et tout ça, ça peut aider parce que la tendance aujourd'hui des États faibles en prend tendance à disparaître. On a besoin des États forts.
Allez, Motoko, si effectivement il y a d'autres sources de financement et qui pourraient être exploitées afin de doter le pays d'un budget solide, pourquoi, à votre avis, ces sources ne sont peut-être pas exploitées?
Soit par la mauvaise volonté ou l'ignorance. Le carbone, regardez le carbone, le RED, c'est des milliards d'argent qui sont versés dans le pays et que le pays qui n'a même pas de forêts en bénéficie. Regardez, la Tanzanie va bénéficier de 100 milliards. Et toute l'Afrique, le bassin du Congo va bénéficier de 100 milliards. Et nous, le Congo, nous n'aurons rien dans ces milliards. C'est une source de revenus d'argent qu'on peut mettre dans le pays. Le Brésil vit effectivement, avec aussi ces moyens de l'aide, donc des crédits carbone.
Mais donc, André, la mauvaise gouvernance justifie le fait que l'on n'arrive pas à exploiter suffisamment les sources de financement qui pourraient permettre à la RDC d'avoir un budget solide.
Absolument. Tout ce dont on parle bénéficie à des individus. Les mines bénéficient à des individus, ça ne bénéficie pas au pays. Ça s'appelle en français mauvaise gouvernance. Le pétrole bénéficie à qui? On peut me le dire. Le pétrole de la République démocratique du Congo bénéficie à qui?
Et donc, encore une fois, il faut repenser toute la structure, tout le système de gestion.
Absolument. Et est-ce que on y pense au moins? On se contente de ça? Est-ce que on va en sortir comme ça? Je ne pense pas.
Merci, c'est la fin de cette émission. Sylvain Machungi était à la technique, Alain Hirong à la réalisation, assisté de Samuel Kakiak, sous la supervision des télé-équipes à Mondo, devant ton micro, Guy Mathieu. Merci et bonne suite de programme sur Radio Okapi. Thank you.